Chapitre 51. Devant la protestation de son oncle, Louis s'était arrêté, jusqu'à un certain point troublé par cette résistance, et plus encore touché par le regard désolé que Denise lui avait lancé. Devait-il céder à la comédie que Clémence et son oncle jouaient en ce moment? Devait-il au contraire poursuivre l'accomplissement de son devoir sans ménagement? Le soupir du marquis mit fin à son hésitation. De la main, il écarta Clémence qui lui barrait le passage et s'approcha du lit. « Me voici de retour, dit-il à haute voix, avec monsieur le notaire de Fromentel. » Tout d'abord, le marquis parut ne pas entendre ou tout au moins ne pas comprendre. Mais bientôt, il porta sa main à sa bouche comme si, avec ses doigts, il allait céder à parler. « Le notaire !» dit-il lentement. « Ah oui, le notaire !» Sur ce mot, le notaire s'avança à son tour. « Je me rends à vos ordres, dit-il. Vous m'avez fait appeler, n'est-ce pas, monsieur le marquis? Me voici. » Il y eut un moment de silence. « Vous désirez que je reçoive votre testament, n'est-ce pas ? » Il ne répondit pas. Tout le monde avait les yeux fixés sur le lit, et dans la chambre, on entendait les mouches bourdonner autour des fioles à sirop rangées sur une console. Personne ne pensait à parler, on écoutait et l'on regardait. Qu'allait-il dire? C'était avec anxiété qu'on se posait cette question. Mais combien divers étaient les sentiments de chacun? De Denise, qui avait les yeux obscurcis par les larmes et le cœur étouffé par le désespoir, de Madame Méraud, qui était partagée entre l'indignation et la douleur, de Clémence, que l'angoisse tordait, de Monsieur de Carquebus, qui se sentait défaillir, du notaire, qui craignait de perdre ce testament, le plus beau de sa carrière, des témoins, que le spectacle de la mort faisait réfléchir, de la religieuse, fâchée qu'on donnât aux affaires, un temps qui aurait dû être consacré à Dieu, de Louis, enfin, qui portait la responsabilité de cette lutte suprême. Le marquis, continuant à ne pas parler et à regarder dans le vide, le notaire fit de nouveau quelques pas en avant et, se plaçant en pleine lumière, « Me reconnaissez-vous, monsieur le marquis » demanda-t-il. De la main, lentement et péniblement, le marquis fit un signe affirmatif. « Si vous voulez que je reçoive votre testament, continua le notaire, et vous voyez, il montra les témoins, que j'ai amené ces messieurs dans ce but, il est indispensable que vous me fassiez connaître votre volonté d'une manière précise en me nommant la personne que vous choisissez pour légataire. » « Ma fille !» dit le marquis. Clémence fit un signe à monsieur de Carquebus, et celui-ci, après un moment d'hésitation, fit deux pas en avant, mais sans venir jusqu'au lit du moribond, qu'il n'osait évidemment pas regarder. « Il est connu, dit-il d'une voix embarrassée, que mon cousin n'a pas de fille. » « Vous voyez, monsieur le notaire, dit vivement Clémence, accourant au secours de monsieur de Carquebus, que monsieur le marquis ne peut pas en ce moment affirmer sa volonté, si toutefois il en a une. » « Madame, dit Louis d'une voix ferme, vous n'avez pas à intervenir dans tout ceci. Il ne vous appartient à aucun titre de tracer son rôle à maître Bouteville. » « J'ai soigné monsieur le marquis pendant sa maladie et je crois savoir mieux que personne s'il est en état présentement de vous répondre. Tous ceux qui l'ont vu dans cette maladie savent qu'il lui faut un certain temps en sortant de son sommeil pour retrouver ses facultés. Attendez, voilà tout ce que je veux dire. Vous voulez gagner du temps, voilà la vérité. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Mais si, dans ces paroles, il y a une injure, il me semble que le lieu et le moment sont bien mal choisis par vous. » Précisément, ce que Louis eût voulu éviter à tout prix se produisait, une discussion. Où ne l'entraînerait-elle pas? Et pendant ce temps, les minutes s'écoulaient. S'il laissait Clémence continuer, elle arriverait bientôt, sans doute, à trouver un moyen pour empêcher le notaire de faire ce testament. Alors, s'adressant au notaire, « Mon cousin, dit-il, veut faire son testament, et c'est dans ce but qu'il m'a envoyé vous chercher. Vous êtes ici, vous ne le voyez que trop, en présence d'intérêts opposés. Si vous laissez la parole à ces intérêts, vous ne parviendrez jamais à connaître la volonté du testateur. » Je demande qu'on nous laisse seuls, mes témoins et moi, avec monsieur le marquis, dit le notaire. La loi vous autorise, continua Louis, à expulser toute personne qui vous troublerait dans l'accomplissement de votre ministère. Si quelqu'un ici veut désobéir à la loi, qu'il le dise. Il regarda Clémence et monsieur de Carquebus qui ne répondirent rien. Pour moi, je me retire. Ma mère, Denise, suivez-moi, je vous prie. Puis, se tournant vers le marquis, qui regardait toute cette scène sans pouvoir parler, « Nous vous laissons seuls avec le notaire, mon cousin. Dites-lui en toute liberté ce que vous voulez. » Alors, passant devant Clémence et monsieur de Carquebute, « Et vous, madame, et vous, monsieur, persistez-vous quand même à rester dans cette chambre ?» En sa qualité de vieux plaideur, monsieur de Carquebute avait une véritable frayeur de ce petit mot « la loi ». D'ailleurs, il n'était pas dans un de ces moments où il n'avait peur de rien, et même s'il avait été franc, il aurait pu avouer qu'au contraire, il avait peur de tout. Il suivit son neveu sans résistance. Resté seul au milieu de la chambre, Clémence hésita une seconde. Mais que pouvait-elle ? Était-il sage, en s'obstinant, de compromettre le testament qu'elle portait dans sa poche ? En admettant que le marquis pût dicter un nouveau testament au notaire, ce qui n'était nullement démontré pour elle, ce testament fait in extremis ne serait-il pas facilement attaquable? Elle sortit à son tour. Mais, au lieu de fermer la porte, elle la laissa ouverte et, se plaçant dans l'embrasure, « Si la loi permet qu'on assassine un mourant, dit-elle, j'espère qu'elle n'ordonne point de l'abandonner. » Puis-je rester dans cette embrasure, monsieur le substitut, et dois-je le laisser mourir sans le secourir s'il m'appelle? Trouvez-vous que je gêne votre notaire? Louis ne répondit pas. Occupé à réconforter Denise par de douces paroles, il ne retourna même pas la tête du côté de Clémence. Mais bientôt, laissant Denise aux soins de sa mère, il vint se placer en face de Clémence, et se faisant ainsi vis-à-vis, l'un à droite de la porte, l'autre à gauche, ils restèrent les yeux fixés sur le marquis. « Vous savez, monsieur le marquis, disait le notaire, que pour que votre testament soit valable, il suffit que vous me disiez librement et d'une façon précise quelle est votre volonté. Vous n'avez pas à vous préoccuper de la signature. Nous mentionnerons que, en votre état de maladie, vous n'avez pas pu signer. Quelles sont vos intentions, monsieur le marquis ?» Le marquis porta ses deux mains à sa bouche et parut faire des efforts désespérés pour parler. Sa respiration produisait le bruit d'un soufflet. « Vous m'entendez bien ?» continuait le notaire. Il fit un signe affirmatif. « À qui voulez-vous donner votre fortune ?» Après plusieurs efforts, il dit « Ma fille !»« Votre fille ? Mais qui est votre fille ? Il faut que vous me la nommiez. » « Ma fille ! Si vous avez un enfant naturel que vous reconnaissez pour votre fille et à qui vous voulez laisser votre fortune, il faut que vous me disiez son nom. » Le marquis fit signe qu'il comprenait. « Il faut que vous me désigniez clairement votre légataire. Faites un effort, monsieur le marquis. Vous voyez, je suis prêt à écrire. » De nouveau, il porta ses mains à ses lèvres. Puis, après quelques minutes, il murmura « Ma fille ! Ma fille ! » Cette lutte était poignante. Le notaire était troublé et les témoins se regardaient les uns les autres avec émotion. Louis, les yeux pleins de larmes, se tenait appuyé à la boiserie, tandis que Clémence restait droite, mais le visage décoloré par une pâleur livide. « Nous attendrons, monsieur le marquis, dit le notaire. Ne vous troublez pas, remettez-vous. » Mais au changement qui, de minute en minute, se montrait sur le visage et dans l'attitude du moribond, il était certain que plus on attendrait, moins on aurait chance d'obtenir de lui une parole lucide. La mort venait à grands pas. Le notaire se leva. « Nous revenons tout à l'heure, dit-il. » Et il fit signe à ses témoins de le suivre. « Ma fille ! Ma fille !» cria le mourant en agitant faiblement la main pour les retenir. Clémence alors se précipita dans la chambre, la tête haute, les yeux brillants. Le sang avait ranimé ses joues et rougi ses lèvres. Vivement, elle s'assit auprès du lit, décidée à ne pas quitter cette place avant que la mort eût achevé son œuvre. Peu après, entrèrent Denise et Madame Méraud, puis derrière elle, les deux sœurs de charité. Pendant ce temps, le notaire et les témoins étaient passés dans la bibliothèque où Louis les avait suivis. « Je m'y suis pris de toutes les manières, » dit le notaire s'adressant à Louis, « pour amener monsieur le marquis à me nommer son légataire et à me faire connaître formellement ses intentions. »« Je le sais, » répondit Louis, « je vous regardais et je vous écoutais. » Alors, vous savez que je n'ai pu obtenir de lui que ces deux mots, « ma fille ».« C'est à sa fille, c'est à mademoiselle Denise Lajolet, que mon cousin veut laisser sa fortune. Telles sont ses intentions. Il me les a fait connaître il y a une heure. » »« Je le pense bien, mais vous savez mieux que moi que c'est à moi, que c'est devant ces messieurs, que le testateur doit dicter sa volonté. » »« Dicter ? Je ne dis pas mot à mot, mais enfin, pour que le testament soit valable, il faut qu'il soit l'expression de la volonté du testateur. Où est cette volonté? Comment est-elle exprimée? Par ces mots, ma fille, c'est sa fille qu'il veut pour légataire. Quelle fille? Vous le savez, vous, parce qu'il vous l'a déjà dit. Mais nous, que savons-nous? Je le demande à ces messieurs. Les témoins baissèrent la tête sans répondre. Cependant, le maire s'enhardit. « Pour moi, dit-il, m'est avis que c'est cette jeune personne que monsieur le marquis voudrait avantager. »« Avantager de quoi? De combien ?» demanda le notaire. « Ah, voilà! Pourtant, c'est triste de voir une belle fortune se perdre parce que monsieur le marquis, le pauvre cher homme, ne peut pas dire le nom quand il a dit la chose. »« Vous voyez !» s'écria Louis. « Croyez bien, dit le notaire, que je sens tout ce que cette situation a de grave. Aussi, je veux en appeler à vous. Voyons, monsieur le procureur impérial, vous qui êtes un homme d'honneur et qui êtes aussi l'homme de la loi, en votre âme et conscience, puis-je recevoir un pareil testament ?» Louis resta un moment sans répondre. C'était la fortune de Denise, l'héritage de son cousin, qui était entre ses mains. Après quelques secondes, il releva la tête et, d'une voix ferme, « Non, dit-il. »